Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3 CFAQ.
Ça part ici.
Vous êtes toujours à l'antenne de CFAQ 88.3. C'est le 9 qui se poursuit. Nous recevons au téléphone aujourd'hui Julie-Christine Coton, qui est professeure agréée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé au département des sciences de la santé communautaire, pour parler de son nouvel ouvrage collectif sur l'intervention auprès des jeunes trans et non-binaires. Julie-Christine, bonjour.
Bonjour Alex, merci de me recevoir.
Qu'est-ce qui vous a interpellé pour pouvoir parler de cette communauté-là?
À vrai dire, on a été approchés par les presses de l'Université du Québec, okay, il y a de cela un peu plus de 3 ans, par la collection psychoéducation des PUC, presse de l'Université du Québec, et on nous demandait de faire un ouvrage qui était spécifique à la jeunesse trans et non-binaire, puis c'était juste impossible de refuser parce que à ce moment-là, déjà, ils commençaient à avoir une montée des revendications, des tensions sociale, politique, juridique, là. Donc, mes collègues Annie Poulaine sans façon et Nicolas Courcion ont accepté de relever le défi.
Pouvez-vous nous donner un aperçu des objectifs de l'ouvrage en tant que tel que vous vouliez développer?
Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle de la collection psychoéducation correspondait vraiment à notre façon de faire, parce que de façon typique, ils ont toujours 2 sections centrales dans les livres. Nous, la première section, c'était vraiment axée sur les connaissances. Donc, puis la deuxième section, c'est sur plus l'intervention. Donc, la première partie du livre, il y a 6 chapitres, puis le but, c'est vraiment d'aller mettre en lumière les données les plus récentes par rapport à ce que les écrits scientifiques, là, d'être capable d'aller contrer certaines désinformations qu'on voit de plus en plus là apparaître, de donner les plus récentes données. Puis après ça, dans un deuxième temps, la partie 2 vise vraiment à comment on applique ces données-là en contexte, par exemple, scolaire, en contexte hospitalier, lorsque des jeunes veulent avoir accès, par exemple, à des soins transaffirmatifs. C'est pas le cas pour tous les jeunes, mais il y en a que ça peut être le cas. Donc, dans une diversité de contextes cliniques, on parle des contextes propres au traitement des dépendances, la santé mentale, les milieux scolaires, même la recherche, comment faire de la recherche avec les jeunes trans non-binaires. Donc, il y a vraiment une portion très plus théorique. On rassemble les plus récentes connaissances, puis une portion après beaucoup plus proche des perspectives cliniques puis pratiques.
Aviez-vous un bon bassin de données? Parce que ça, vous parlez qu'il faut faire le tri parmi ce qui est véridique et ce qui l'est moins, malheureusement. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà une bonne source, je dirais?
Oui, nous, évidemment, en tant que chercheurs, sur chaque chapitre, il y a des chercheurs là, et qui co-écrivaient avec des personnes, par exemple, psychoéducatrices, des personnes trans également. Mais il y avait vraiment toujours une personne chercheuse ou qui avait une formation quand même solide en recherche. Et de toute manière, c'est révisé par les pairs. Donc, nous, évidemment, les banques de données régulières, mais il y avait aussi beaucoup de données inédites de recherche en contexte québécois, canadien, des fois même en dehors du Canada. Et nous, par exemple, il y a un chapitre qui porte sur les jeunes qui discontinuent leur transition. On tenait vraiment à mettre un chapitre spécifique à ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du reportage Trans Express, par exemple.
Est-ce que c'était celui qui était à Radio-Canada? C'était en enquête, je pense, qu'il l'avait fait.
Oui,
c'était celui-là,
bon.
Oui.
Oui, Trans Express. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de démoniser ce reportage-là. Ce n'est pas du tout mon but, là.
Oui, mais il n'a pas été très bien reçu, ce reportage-là, effectivement.
C'est pas unanime. Mais tu sais, moi, ce que je reproche à ce reportage-là, c'est correct de parler des gens qui détransitionnent ou qui souhaitent, dans le fond, revenir en arrière d'une transition, ou encore qui souhaitent mettre sur pause des transitions. Il faut parler du vécu de ces jeunes-là, mais le fait de parler de ces jeunes-là sans mettre en perspective qu'on parle de 1 à 2 % des jeunes trans, Donc, tu sais, on a parlé, je trouve, de la détransition comme étant quelque chose de hyper fréquent quand c'est pas le cas. Donc, cela dit, nous, on s'est dit, ben c'est important d'en parler. Il y a un chapitre avec des données inédites qui a été mené dans le cadre du livre qui parle des jeunes qui font ces choix-là, puis surtout pourquoi, avec toutes les nuances, puis ça permet vraiment d'enlever l'accent sur le regret, parce que oui, le regret des transitions font partie des raisons de la détransition puis de la discontinuation, mais encore là, ce n'est qu'une des raisons. Entre autres, il y a des jeunes, par exemple, qui vont détransitionner parce qu'au final, ils vivent plus de discrimination. Ça fait que c'est pas tant que ces jeunes-là sont plus trans, finalement. C'est plus qu'ils se disent, ben moi, jusqu'à majorité, je vais faire profil bas. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, oui, il y a des regrets, mais il y a pas juste ces raisons-là qui sont rapportées par les jeunes qui ont été interviewés dans le cadre de l'étude associée à ce chapitre-là. Donc, nous, c'est vraiment d'apporter des nuances, des données probantes et des données émergentes aussi.
Oui, ben comme vous le disiez, pour ceux qui auraient peut-être manqué le reportage, c'est ça, on mettait beaucoup l'emphase sur la partie de regretter d'avoir décidé de faire la transition. Mais sinon, vous mentionnez bon, que les jeunes trans et non-binaires ont récemment obtenu certains gains juridiques. Quels seraient les principaux, selon vous?
Ben, tu sais, dans les 10 dernières années, c'est juste... en passant, le chapitre 1, on met les bases sur le vocabulaire, les identités de genre, vraiment on décortique tout ça. Le chapitre 2, on parle de l'avancement des droits, justement. Puis juste le fait qu'en 2016, là, si je ne m'abuse, là, on a ajouté la discrimination liée au genre et à l'expression de genre comme motif interdit de discrimination. Donc, ça a été un avancement qui a été majeur puis qui a permis de faciliter différentes choses par la suite. Par contre, tu sais, je tiens à dire que dans les dernières années, là, la menace plane plus qu'autre chose, parce que si on regarde, par exemple, ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, où est-ce que les jeunes désormais ils nécessitent l'autorisation parentale pour utiliser un prénom différents en classe. Donc, il y a des reculs dans d'autres provinces. C'est pas encore le cas au Québec. On peut encore s'appuyer sur des politiques ministérielles qui ont été annoncées pour favoriser l'inclusion de ces jeunes-là. Pour l'instant, il n'y a pas de recul au Québec, mais la menace n'a jamais autant plané qu'avant par rapport à ça.
Ryan, tu avais une petite question, je crois.
Oui, c'est ça. Bonjour, madame. Moi, je me présente, je m'appelle Ryan.
Bonjour.
J'aimerais avoir un petit rebond et aussi un avis extérieur de votre part, parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a l'INSEE et l'ONG qui avaient fait une publication de chiffres, notamment en Europe, donc on n'est plus sur une province québécoise, qu'ils avaient précisé qu'il y avait plus de 40% des gens de la communauté trans, ou même LGBT ou LGBT+, qui a été souffert d'un manque d'accompagnement juridique dans le cadre de problèmes ou même d'harcèlement. De la part des organismes juridiques, que ce soit commissariat ou même plus. Comment vous pensez et comment vous ressentez ces chiffres? Et est-ce que ces mêmes chiffres, en fait, pourraient être aussi un exemple et même traduire la cause du fait que certaines personnes regrettent d'avoir choisi de se positionner comme étant une identité trans ou non-binaire?
Oui, clairement. C'est tellement intéressant, cette question-là. Donc, je vais répondre un peu à l'envers, mais oui, selon moi, tous les stresseurs, tu sais, dans l'étude qu'on a menée en 2018, ça s'est confirmé dans d'autres collègues par la suite, on a vu que les jeunes, les personnes, peu importe l'âge, qui transitionnaient, ils étaient significativement plus satisfaits de leur vie que les personnes qui n'avaient pas transitionné malgré leur désir. Par contre, ces personnes-là rapportaient significativement plus de discrimination. Donc, tu sais, c'est pas tout noir et blanc, tu sais. C'est pas magique de transitionner, en grande partie pour les défis sociétaux. Là. L'acceptabilité sociale est pas au rendez-vous autant qu'avant même, je dirais. Tu sais, même Gris-Montréal, là, ils ont documenté dans les écoles, ça fait des décennies qu'ils vont dans les écoles pour au moins 10 ans. Depuis au moins 10 ans, ils vont dans les écoles pour former les élèves, pour leur donner de l'information, les sensibiliser, puis ils font toujours un questionnaire avant et après leur atelier. Et eux, ils me rapportaient là, que depuis, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble 2017, ils observent vraiment un recul dans l'ouverture là, avant et même après les ateliers chez les jeunes. Donc, il y a comme une espèce de vague. Moi, selon moi, il y a de l'influence des États-Unis, mais il y a une vague de fermeture. Tu sais, les gens ouverts, souvent, ils sont très ouverts. Puis, bref, je vais revenir à votre pertinente question, mais je pense vraiment qu'il faut regarder ça avec un œil écologique, là, c'est-à-dire, oui, regarder les jeunes, les difficultés des jeunes, mais regarder les contextes sociaux dans lesquels ils se trouvent. Puis, l'aide juridique, tu sais, souvent, les gens qui vivent la discrimination dans les milieux scolaires, ben, il y a de la discrimination dans d'autres instances, tu sais, puis des fois, c'est plus ou moins conscient. Il y a de plus en plus d'avocats, d'avocates, il y a un mouvement de juristes pour supporter davantage, pour contrer la discrimination spécifique aux populations trans. Il y a un vent là, qui se lève à ce niveau-là, puis j'espère de tout cœur que ça va poursuivre. Il y a des gens aussi en sciences politiques qui s'impliquent de plus en plus. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je trouve ça très intéressant qu'on en parle.
Oui, bien sûr. Bah, après, moi, actuellement, c'était surtout... Vous répondez en partie à la question, donc je vous remercie déjà de votre réponse avant tout.
Ben en fait, c'est extrêmement, c'est extrêmement passionnant, Julie-Christine, mais avant qu'on manque de temps, je voulais vous demander quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes transnominaires et leurs familles grâce à cet ouvrage-là?
Oui. Je veux adresser un message à tout le monde dans l'ensemble, c'est on peut-tu s'éduquer, on peut-tu s'informer avant de donner notre opinion, s'assurer de bien s'informer. Je pense que c'est important parce que les gens nous écoutent. Quand on fait des débats à la Chambre des communes, des débats à la radio avec des discours polarisants, ben il y a des familles, il y a des personnes concernées qui nous écoutent, puis ça peut accentuer leur détresse. Donc, vous n'êtes pas seuls, les personnes concernées. Il y a des organismes, je pense notamment en Estrie, à Transestrie. On est une gang de chercheurs avec vous aussi. Donc, informez-vous, restez pas seuls, puis... souvent, les gens qui ont des discours très polarisants, c'est des gens qui parlent fort, mais il y a quand même, c'est quand même encore une minorité de gens, puis il ne faut pas s'isoler. C'est ce que j'aurais envie de transmettre. Et c'est vraiment un ouvrage qui est accessible à une diversité de personnes. Donc, autant des personnes qui interviennent dans le domaine de la relation d'aide et même en santé. Il y a un chapitre qui a été dirigé par une endocrinologue, par exemple. Mais les parents vont vraiment, c'est bien vulgarisé, les parents vont se retrouver là-dedans et même les jeunes concernés.
Excellent. Ben, en fait, le livre s'intitule « Pratiques psychoéducatives auprès des jeunes trans et non-binaires ». Julie-Christine Coton, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. À bientôt.